Alors, elle vient tout juste d'être élue à Longueuil. Elle est membre du comité exécutif de la ville de Longueuil, responsable de la sécurité publique, de la culture et des communications, de la famille, de l'immigration et des relations interculturelles, ainsi que de la condition féminine, conseillère municipale du district du Parc de la Cité dans l'arrondissement Saint-Hubert pour Coalition Longueuil. Bonjour Affine.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien?
Très bien, merci de me recevoir aujourd'hui.
Ça a fait un grand, grand plaisir. Alors, comment s'est déroulée votre enfance?
Je suis née d'ailleurs et grandi en République démocratique du Congo. L'Afrique centrale, je ne sais pas si vous êtes au courant. Mon enfance était vraiment extraordinaire, j'avais des parents très présents, mon père et ma mère. Déjà, je suis l'aînée, donc j'étais la prunelle des yeux de mon papa. Mais j'ai toujours été une fille, même une enfant très bavarde, qui pose des questions, qui est curieuse, qui sort de sa zone de confort. Donc j'ai grandi, mon père en tout cas voulait s'assurer que...
Allez-y, continuez à parler, on vient petit.
Merci.
On fait des ajustements.
C'est super. Alors, c'est ça, donc, je suis au secondaire, je suis allée dans une école où j'étais la seule fille de ma classe, exactement, parce que mon père trouvait que, avec ma personnalité, qu'il fallait que je puisse me buter à plusieurs situations, qu'il va pouvoir me démarquer ou me sortir un peu de ma zone de confort, parce que c'est ce genre d'enfant que j'ai toujours été. Donc j'ai eu une enfance vraiment très bien, très très tranquille, heureuse, jusque bien sûr à 14 ans quand il y a eu premièrement le génocide au Rwanda. Et comme la République démocratique du Congo est voisine au Rwanda, bien sûr on a vécu un peu les séquelles de ce qui s'est passé là-bas, surtout que j'habitais l'est du Congo qui est vraiment collé au Rwanda. Ensuite il y a eu le coup d'état qui a démantelé un peu le régime dictatorial qui était présent pendant 30 ans peut-être. Donc ça, c'était à partir de mes 14 ans, je peux dire, jusqu'à...
Donc c'est là, en plein dans l'adolescence, finalement.
Oui, c'est vraiment c'est quelques années, c'est peut-être 2 ans de ma vie qui étaient peut-être perturbées. Mm-hmm. Mais le reste, j'ai eu une enfance très, très, très heureuse, l'aînée de ma famille.
Mais en quoi ça a changé votre vie? Est-ce que vous aviez peur? Est-ce que ce qui s'est passé au Rwanda affectait? Comment a été votre quotidien à ce moment-là?
Ben, c'est sûr, parce que déjà, on a dû arrêter l'école, on a dû arrêter d'aller à l'école puisque il y avait des mines, je sais pas si vous connaissez les mines, c'est, qui se plaçaient dans nos écoles parce que il y avait des réfugiés rwandais qui venaient chez nous, qui fuyaient la guerre en venant chez nous, ce qui veut dire qu'ils se faisaient suivre aussi chez nous, donc ça perturbait aussi la vie. Ça amenait une certaine insécurité incroyable dans la
mais
vie.
Mais vous arrêtez l'école pendant ce temps-là?
Oui, on a dû arrêter l'école. Ensuite, ça a suivi automatiquement le coup d'état, ce qui fait que tout a arrêté et il fallait quitter la ville à pied, bien sûr, pas en voiture. Il fallait quitter la ville pour se diriger vers des villages un peu plus lointains en fuyant un peu ce qui se passait en ville et puis en fuyant un peu les rebelles.
Donc vous êtes parti à pied, vous avez la maison et tout le monde est parti?
Tout le monde est quitté avec rien, il fallait partir. Sinon, si on se trouvait dans une maison en ville, notre vie était en danger. Okay. Donc il fallait absolument partir. Il y en a qui allaient plus loin, il y en a qui quittaient l'Est, il y en a qui quittaient l'Est à pied pour se diriger tranquillement vers Kinshasa. Si vous connaissez la République démocratique du Congo, c'est un très grand pays. Donc ils se dirigeaient vers Kinshasa en fait pour pouvoir être un peu plus en sécurité. C'est l'Ouest tout complètement, mais certains autres aller beaucoup plus dans les montagnes, aux villages, plus loin. Comme ça, au moins, on n'est pas à risque. Et c'est ce que nous, on a fait. On est resté toujours dans la province, mais bien plus loin, espérant que ça va s'estomper en ville.
Donc, vous partez à pied, vous laissez tout. Un petit sac à dos, même pas, rien
Il fallait tout laisser, parce qu'avec le sac à dos, ça veut dire qu'en fait, on alourdit un peu le trajet. Peut-être qu'on pourrait emmener des petites choses sur ce plan-là. Qu'est-ce que maman a sélectionné? C'est vraiment maman qui nous a beaucoup protégés pour que ça ne soit pas si traumatisant pour nous. Qu'est-ce que maman a emmené? Mais moi, je sais que j'avais rien sur moi. Et puis, on dormait de temps en temps ici et là. Mais on est parti. Puis on est resté pendant un petit bout. Tout était fermé. Enfin, tout a arrêté, en fait. Et on ne pouvait pas aller en voiture parce qu'on devenait la cible. On se faisait remarquer.
C'est ça, exactement.
Donc, il fallait le faire à pied.
Donc, vous partez. Comment c'était ces moments-là de marcher en laissant sa maison en arrière et en se disant où est-ce que je vais? Est-ce qu'il y avait la peur? Il y avait quoi?
C'est sûr qu'il y avait beaucoup de peur parce que déjà, en quittant la ville, on voyait un peu ce qui se passait, les gens qui ont succombé, les gens qui en ont souffert. les gens qui ont été tués, on le voyait, on passait.
Donc la première fois où vous êtes proche de la mort finalement, vous
vraiment
voyez
proche,
des gens.
Vraiment proche de la mort, on le voyait. Mais je disais ça à mes collègues, nos mamans sont vraiment incroyables.
Elles sont fortes. Hein?
Nos mamans sont d'une force, sont d'une.
Ouais.
Ma mère, ma tante, parce qu'on était avec ma tante aussi, la petite sœur de mon père, elles ont rendu cette expérience moins traumatisante. Elles prenaient tout sur elles. Elles nous expliquaient ce qu'on vivait pendant qu'on avançait, mais le rendant un peu, comment je vais dire, moins traumatisant. C'est comme on est ensemble, on se tient ensemble, on est en train de survivre quelque chose, mais c'est parce qu'on va la survivre, mais en famille.
Et donc c'était des phrases que votre mère vous disait?
Oui, vraiment. Et quand je l'ai mentionné à notre mairesse, à la chef Catherine Fournier, elle a dit quelque chose qui m'a fait voir c'est quoi qu'elle a fait, ma mère. Elle a dit, ça me fait penser un peu au film La vie
oui,
est belle.
Oui, La vie est belle, tout à fait.
C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, bah, oui, c'est exactement
ça. Exactement. Donc elle mettait ça positif?
Vraiment.
Qu'est-ce qu'elle disait?
Elle disait, bah, on est en famille, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement, mais c'est vraiment parce qu'il y a eu une dictature. C'est vrai que c'est pas bon un coup d'État, mais ça va
aller. Elle expliquait.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mal qui arrive, mais ça va finir par aboutir à quelque chose de positif pour notre ville, pour notre pays. Parce que les bonnes choses, l'arc-en-ciel vient après la pluie.
Et quand vous voyez des morts, qu'est-ce qu'elle disait, par exemple? Parce que ça, c'est traumatisant pour un enfant. Là, vous êtes adolescente, là.
C'est ça.
Donc, qu'est-ce qu'elle avait comme mot?
Elle disait, fermez vos yeux et pensez à quelque chose de positif. C'est des gens qui ont succombé, ça fait mal, ils sont morts. On avait mal, elle avait mal elle-même. Je pouvais sentir sa voix tremblotante.
Elle disait,
fermez vos yeux et pensez à quelque chose de positif. Et elle disait que c'est comme le fer, il faut le battre avec du feu. Et après, il devient ce qu'on veut qu'il devienne. Donc le pays est en train de passer par un chamboulement actuellement et c'est horrible tout ce qui se passe. Mais pensez à quelque chose de positif parce que l'arc-en-ciel vient en fait après. Ma mère, ma tante, vraiment, elles ont fait en sorte que cette expérience traumatisante ne reste pas avec... Je ne sais pas comment l'expliquer. Même moi-même, des fois, je me demande comment ça se fait que je ne suis pas traumatisée par ça, avec mon frère, ma sœur.
Non, puis en plus, quand vous le racontez, vous n'avez pas l'air traumatisée. On sent que grâce à votre mère, vous en êtes sortie.
Vraiment, et tous les jours, j'élève ma mère, j'élève les mamans pour comment est-ce qu'elles font en sorte que leurs enfants soient épargnés de la peine, du traumatisme, que leurs enfants sortent quand même des individus à part entière.
Et donc là, vous marchez, vous ne savez pas où aller, et ça se termine où?
On est allé dans un village, j'oublie le nom, ça fait un petit bout. On est resté là-bas pendant un petit bout d'ailleurs, jusqu'à ce que ça se calme, ça s'estompe. Parce que les rebelles avançaient et ils allaient jusqu'à la capitale qui est Kinshasa. Donc ça veut dire pendant qu'ils passaient, quand ils ont pris le siège de la ville, ils instauraient leur personne. Ce serait comme les dirigeants non officiels. Partout où ils gagnaient en fait le territoire. Et jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Kinshasa et enfin prendre le pays au complet. Donc ça veut dire quand ils passaient notre région, ça se calmait parce qu'ils l'ont assiégé, si on va dire, n'est-ce pas? Donc ça se calmait. Alors là, l'école a recommencé. On est retourné. Premièrement, les hommes. Les femmes ont resté d'abord parce qu'on ne sait pas ce qui se passerait, c'est quoi les séquelles, c'est quoi qui... Alors les hommes sont d'abord retournés. Quand tout était beau, alors on nous a envoyé le mot qu'on pouvait retourner aussi. Donc c'était graduellement en fait. Mais ça a commencé tranquillement quand on était déjà en ville. Petit à petit, on voyait des chars de guerre s'installer. Puis on se demandait qu'est-ce qui se passe. De cette manière-là... En fait, donc on...
Et quand est-ce que vous arrivez ici au Québec?
J'arrive au Québec en 2001, exactement. Au Québec, c'est le 20, la dernière journée du mois d'avril. Le lendemain, c'était le 1er. C'est quoi en avril? Le 30, hein? C'est ça, c'est le 30. Le 30 avril, mais je garde toujours le 1er, parce que le 1er mai, parce que c'était la nuit du 30 au 1er. Mais bon, j'ai vu la ville vraiment le 1er mai. Donc moi, je dis toujours le 1er mai. Mais au Québec, officiellement, c'est le 30 avril.
Et pourquoi le Québec?
Ben, c'était initialement les États-Unis, je vous avoue, maman, quand elle voulait absolument qu'on quitte pour avoir un meilleur futur, mon frère et moi, nous étions à peine des jeunes adultes, hein, nous avions 18 et 19 ans à l'époque. Puis maman voulait qu'on ait une meilleure vie, un meilleur futur avec le potentiel qu'on avait, qu'on puisse explorer tout le potentiel. Alors elle voulait nous envoyer aux États-Unis parce qu'en Afrique, le rêve américain, c'est les États-Unis et rien d'autre. On n'est pas ouvert à autre chose. L'ultime Eldorado, ce qu'on dit, le paradis, c'est vraiment les États-Unis. Mais elle a compris qu'on était très jeunes, on était à peine des jeunes adultes et que j'allais moi-même, toute seule à 19 ans, m'occuper de mon frère, que c'est peut-être pas une bonne idée les États-Unis parce que premièrement c'est très anglophone, même si on était déjà bilingue quand même en ce moment-là. mais elle trouvait que il fallait que ce serait mieux qu'on aille dans un endroit qui est francophone premièrement et qui aurait toutes les mêmes avantages et les opportunités sans nécessairement avoir peut-être les dangers qui étaient véhiculés par rapport aux États-Unis, surtout pour les jeunes garçons comme mon frère. Alors elle a changé d'avis et puis nous a envoyé en fait au Québec. Mais ça, c'est vraiment la décision de maman. Maman nous a
c'est maman la chef, hein. Parce que là, vous ne parlez pas de votre père, là. C'est vraiment votre
papa.
Mère.
Papa est là, mais c'est maman qui a sacrifié. C'est maman qui nous a dit, c'est là que vous partez.
C'est elle qui a dit, ça y est, on fait les bagages. Allez-y. Ça va être là, quand même.
Ouais, une femme forte, maman. Ouais, ouais. Si vous la voyez, elle est toute douce. Elle est timide presque, mais c'est une
battante. Mais ça ne veut rien dire, la douceur.
Oui, elle est toute douce, timide presque, vraiment, maman. Ouais,
mais c'est où s'en va. Elle s'en va, pas obligée de parler comme un homme, là.
Exactement, c'est ça.
Elle a des idées. Donc, on va aller, vous savez qu'ici, on demande de faire un devoir à nos invités,
d'accord,
de choisir une chanson, mais vous devez nous dire pourquoi et nous la présenter. Alors, allez-y, c'est le temps de la chanson.
Super. Donc, la chanson est de Sidiki Diabaté. C'est un Malien, c'est vraiment pas de la République démocratique du Congo. Cette chanson m'a beaucoup, beaucoup marquée, mais elle m'a marquée encore plus durant cette campagne électorale. C'est en Bambara et une des femmes qui vient souvent tresser mes enfants et tout, je la connais depuis très longtemps, elle parle sa langue et elle a traduit cette chanson pour moi durant la campagne et que c'est là que ça m'a marqué. Et ce qu'il dit, c'est que c'était dur la vie, c'était très 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 dur la vie. On me disait que j'y arriverais jamais, on me disait que ma passion ne me nourrirait jamais. On me disait que ma passion ne ferait jamais en sorte que je devienne quelqu'un ou que j'aboutisse, que je vive ma passion. Mais maman était sur ses genoux à prier pour moi, à me dire que tu vas y arriver. Et voilà.
Allons, on l'écoute. Alors, notre invitée Afine Lualalika, qui est membre du comité exécutif de la ville de Longueuil et pour la coalition Longueuil. Alors, la politique dans votre vie, c'est arrivé comment ?
Ben en fait, la politique est arrivée en 2015. J'étais en congé maternité de ma deuxième, Elora. C'est vraiment la politique qui m'a trouvée. J'ai jamais eu d'ambition, en fait, d'être en politique. Jamais. J'ai toujours su, moi, depuis que je suis petite, c'est que je voulais être dans la vie. Et je me disais qu'il n'y a rien qui va me dérouter. Mais l'immigration, bien sûr, a un peu chambardé, changé tout ça. Puis en ce moment-là, je travaillais pour une banque, une institution financière, et puis j'étais enceinte, je m'ennuyais incroyablement. Oui, parce que j'étais en congé maternité, quoique j'avais la meilleure bosse au monde, qui était mon bébé, mais je voulais faire quelque chose d'autre et tout, je m'ennuyais. Puis j'ai un ami, un grand ami d'ailleurs, Christian, il s'appelle, qui travaillait dans un cabinet en fait de député fédéral, qui à un moment me disait que ces députés avaient besoin de quelqu'un sur la Rive-Sud pour s'impliquer avec eux, pour pouvoir faire campagne avec eux et toucher les gens de la Rive-Sud. Et c'est comme ça que j'ai été rejointe par ces deux députés d'ailleurs pour que je puisse m'impliquer avec eux en 2015. Au début, j'ai trouvé ça un peu rocambolaire. Je pensais que c'était une blague. Jamais j'aurais imaginé, moi, être en politique, surtout être approchée par des députés fédéraux. Jamais. Donc, j'avais l'impression... Alors, j'ai pris mon temps. J'ai pris 2 mois pour y réfléchir. Puis là, c'est le député lui-même qui m'a contactée pour me dire, est-ce que tu viens me voir? Parce que,
est-ce qu'on peut avoir son nom, le député lui-même?
Ben, c'est Jean-François Fortin. Il est, maintenant, en fait, il est le maire de Matane,
oui,
Matapédia,
oui,
en fait. Ouais. Donc, il m'a,
alors, lui, il vous approche, monsieur Fortin.
Il m'approche, il dit, Afine, j'ai beaucoup entendu parler de toi, de ton dynamisme et de ton besoin de t'impliquer. Comment est-ce que tu aimes ton arrondissement? Tu aimes Saint-Hubert? Alors, on veut que tu t'impliques, que tu puisses faire campagne avec nous pour pouvoir faire connaître notre parti. C'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer tranquillement. Et comme on dit, de la politique, hein, on a la piqûre. Mm-hmm. Parce qu'on rencontre les gens, on parle de nos convictions et puis les gens communiquent avec nous. En fait, on tombe en amour avec les gens qu'on rencontre. On a l'impression que c'est la politique, mais c'est parce que la politique est un véhicule qui fait en sorte qu'on rencontre les gens. En tout cas, moi, parce que moi, je suis très grassroots, comme on dit. Moi,
sur la route, vraiment,
sur le terrain. Donc, alors, je suis tombée en amour, en fait, encore plus avec Saint-Hubert que je connaissais à peine. Ça faisait 4 ans, dans 5 ans que je venais d'y aménager. Puis j'avais un bébé. Puis je me dis, il faut que je connaisse ce monde où mes enfants vont grandir. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait.
Il est venu vous chercher, monsieur Fortin. Il avait le nez, hein, il avait le flair.
Mine de rien, mais oui. Mais il fallait que mon ami qui travaillait dans le cabinet puisse dire, oh, je connais quelqu'un. Parce qu'il voulait des gens dynamiques qui connaissent leur région, qui y habitent. Donc, c'est ça.
Alors là, vous êtes vous êtes avec l'équipe de Catherine Fournier.
Tout à fait.
Donc, comment ça a été, cette campagne? Parce que c'est long, hein, c'est une campagne qui est très longue.
Oui, elle était...
c'est terrible.
C'est long, c'est très terrain. Ouais. Mais ça me rejoint à municipal, parce que j'ai commencé avec le fédéral, puis après, je me suis beaucoup impliquée en militantisme au provincial. Et puis là, depuis 2017, j'ai commencé à faire du municipal. Le municipal me rejoint beaucoup, puisque j'ai cet amour-là pour mon quartier, j'ai cet amour pour mon arrondissement, j'ai l'amour de ma communauté. Donc le municipal me permet de rencontrer les personnes avec lesquelles je vis.
Oui, c'est vraiment une politique de proximité.
De proximité, en fait.
Ouais.
Donc ça me permet de rencontrer les parents des amis de mes enfants, de rencontrer les parents des collègues de classe de mes enfants. Ça me permet de connaître les coins et recoins de là où j'habite, là où mes enfants habitent, là où j'élève les miens. Ça me permet de connaître les gens avec lesquels je vis dans ma communauté, en fait. Donc c'est comme ça, en fait, que le municipal me rejoint beaucoup plus. J'ai vraiment aimé faire campagne au municipal. Ça fait 5 mois, en fait. J'ai été annoncée candidate.
C'est très long, 5 mois.
C'est ça. J'ai été annoncée comme candidate le 16 juin et j'ai commencé directement. C'est sûr qu'en ce moment-là, je travaillais encore. Puis j'ai mes enfants qui sont très jeunes. Donc je faisais tout en même temps. Après le travail, j'allais faire mes porte-à-porte. Je m'occupais de mes enfants aussi. Et puis en plus, bien sûr, quand j'ai été officiellement candidate le 17 septembre, là j'ai arrêté le travail pour faire la campagne à plein temps, vraiment au moment du réveil jusqu'à la tombée de la nuit, en fait.
Oh oui, c'est long, là, marcher des kilomètres,
c'est long.
Aller serrer des mains
parce qu'il y a Covid. Hein.
Oui, évidemment.
Mais j'ai vraiment aimé, en fait, vous savez ce qui est incroyable, c'est que j'angoissais quand je n'étais pas aux portes. Ça veut dire, il fallait que je sois aux portes, j'aimais rencontrer les gens. À chaque fois que je cognais à une porte et que je rencontrais les gens, ça me rappelait pourquoi je le fais. Quand j'étais loin...
Ça vous nourrissait, quoi.
Ça me nourrit. Ça me nourrissait vraiment. Et quand j'étais loin ou à la maison, quand je prenais une pause, là, on entend les voix des incrédules. On entend ceux qui disent, Caffine, t'es sûre? Caffine, est-ce que tu vas y arriver? Et là, même le doute en nous, en tant que femme, premièrement, et le doute de le truc qui est colossal devant nous.
Mais c'est quoi ces voix-là? C'est qui ces voix-là?
C'est plusieurs personnes, même des gens qui croyaient en nous, en fait. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que le district que j'ai gagné, le district que je représente maintenant par de la cité, le conseiller municipal qui y était, ça faisait 25 ans qu'il était conseiller municipal. Et c'est quelqu'un qui a vu plusieurs...
C'est quelque chose.
C'est quelqu'un qui a toujours gagné, malgré les différentes administrations qui sont arrivées.
Alors vous avez réussi à le déloger.
Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui a gagné, même quand Caroline Saint-Hilaire, très populaire, est arrivée et devenue mairesse, il a tout de même gagné son siège. Et on me disait...
Mais qu'est-ce que vous avez fait pour faire la différence? Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à le déloger?
Premièrement, je suis convaincue que j'étais dans la bonne équipe, celle de Catherine Fournier, qu'on se le dise. J'étais dans la bonne équipe. Donc ça coule de la tête, bien sûr, parce que c'était la chef. Deuxièmement, c'est un quartier que j'adore. C'est là où j'habite, c'est là où j'élève mes enfants, j'adore. Donc j'ai le cœur et la passion pour ce quartier. Puis alors au porte-à-porte, donc j'ai pas lâché une seule porte, j'ai pas lâché un seul moment. J'ai fait mon quartier deux fois. Et certains endroits, même, ils me le disent, on t'a vu trois fois. J'ai 6200.
Ah bon, même on t'a vu trois fois, on t'a assez vu.
Oui, j'ai fait. Peu. Donc j'ai 6200 portes, si pas plus. Oh. Et oui, et je l'ai fait deux fois. Oui. Et certains endroits, trois fois. Ce qui en fait en sorte que ma passion et mon amour pour mon quartier et ses gens se véhiculaient aux portes avec les gens auxquels je parlais. Je rencontrais les gens, ils sentaient mon amour, ma passion. Ils sentaient aussi ma persévérance et mon travail. Donc, je pense que ça a aidé. Mais aussi le fait d'être terrain, le fait d'être présent. Il y en a qui me disent, ça fait 25 ans qu'on vit ici, on n'a jamais rencontré personne qui vient à notre porte. Il y en a, ça fait tellement d'années qu'on était ici, aucune personne qui est aspirante politicien ou politicienne n'est venue à notre porte.
Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Là, j'ai nommé les postes. Hein. Oui. C'est énorme. Là, je vais le redire là, quand même. Responsable de la sécurité publique, de la culture, des communications, de la famille, de l'immigration, des relations interculturelles ainsi que de la condition féminine.
Tout à
c'est
fait.
Quelque chose.
Oui, une belle confiance que m'a accordée notre mairesse, Catherine Fournier.
Alors, là-dedans, dans ces postes, est-ce qu'il y en a un que vous aimez le plus, c'est-à-dire qui vous ressemble et vous avez envie de vous battre pour?
Ils sont tellement différents les uns des autres. Vous avez remarqué, c'est très diversifié. Mais ils m'atteignent tous d'une manière ou d'une autre. La sécurité publique, vous pouvez l'imaginer, c'est quelque chose qui est très très important. Je viens d'un pays où il n'y a pas de sécurité publique, un pays où il y a pratiquement l'anarchie, il n'y a pas vraiment un service de police non corrompu. Alors il n'y a pas de pompiers qui peuvent venir s'occuper des gens sinistrés. Donc ça me rejoint beaucoup. Puis avec aussi tout ce qu'on entend dans les médias, le profilage racial, qu'on entend un peu la police de proximité. Nous, on a une grande, grande chance d'avoir un service de police avant-gardiste avec
ça va très bien. Donc,
oui, immersion, oui. Avec le programme immersion de notre chef de police, Fadi Daguer. Donc on a déjà au moins un service de police qui est très avant-gardiste, qui aide beaucoup. Donc ça me rejoint beaucoup parce que je sais c'est quoi vivre dans une ville ou dans un pays où il n'y a pas de sécurité.
Donc vous avez pointé en nommé en premier donc la sécurité.
Ça me rejoint parce que dans mon enfance, j'avais besoin de cette sécurité qui existe. Alors c'est quelque chose qui me rejoint, qui me va dans le cœur. L'immigration, c'est normal. Je suis issue de l'immigration, j'ai immigré. Puis je remarque c'est quoi qui aurait pu être fait. Parce que c'est vrai que les gens ont l'impression que l'immigration, ça touche seulement le fédéral ou le provincial. C'est dans des questions très polarisées. Alors on a l'impression que les villes n'y ont rien à voir. Mais oui, c'est vrai que ça commence par le fédéral, ensuite le provincial. Mais ce sont les villes qui accueillent ces immigrants. Ce sont les villes qui les intègrent, en fait. Donc ça me rejoint. Alors, la condition féminine, ça c'est incroyablement un des dossiers qui me touche beaucoup. Premièrement, pas seulement parce que je suis une femme, parce que j'ai une mère incroyable, parce que je vois un peu les défis que les femmes vivent. Moi-même, en faisant mon cheminement, je l'ai vécu. Donc ça me rejoint beaucoup. Avec ce qu'on a vécu ces derniers temps, tous les féminicides qui arrivent, les violences conjugales, ça me rejoint aussi. Parce que je suis une femme, j'élève des filles, je travaille avec des femmes. Ça me touche.
Ça vous touche. Est-ce que les salaires des employés de la ville de Longueuil sont pareils pour les hommes que pour les femmes?
C'est quelque chose à voir, en fait. C'est une très très bonne question que je pourrais vérifier. En effet, je suis pas encore au courant. Je suis pas au courant de comment ça se passe pour le moment en termes de salaire. Ça pourrait être regardé, en effet. Donc la condition féminine, ça me touche de cette manière, les égalités et tout. Comme vous disiez tout à l'heure, vous parlez de maman. On a toujours la conception que, par exemple, en Afrique, c'est papa. Oui, on a la conception que c'est le chef de famille. Mais la dirigeante, c'est vraiment la maman. Puis c'est de sortir ces lions en nous, en fait, et d'avoir des politiques, de pallier donner des opportunités.
C'est votre mère qui vous a donné votre assurance.
Oui, tout à fait. L'amour de mon papa aussi. Mon père, bien sûr, ça prend les deux, en fait. Pour qu'une femme s'épanouisse, pour qu'une femme arrive à son plein potentiel et le vive, ça prend aussi l'éducation des hommes.
Donc, condition féminine, en fait. En deuxième position pour vous, mais immigration, ça je comprends bien.
Immigration, c'est moi. Enfin, je suis issue de ça, donc ça me touche beaucoup, en fait. La famille, c'est bien normal. Je suis le Saint-Hubert, c'est un des districts les plus familial, en fait, à Longueuil.
Et la culture, parce que il y a quelques théâtres qui ont fermé à Longueuil.
C'est ça.
Et puis on présente à la ville de Longueuil souvent les spectacles de Montréal. Est-ce que les choses vont être différentes?
C'est ça le travail qu'on va faire en fait. Parce que déjà, on présente les spectacles de Montréal à Longueuil. Et même à Longueuil, ce n'est pas nécessairement équilibré dans les arrondissements. Mmh. Ça, c'est le plus gros challenge en fait que Catherine m'a donné, dans le sens où c'est un domaine que je sais que ça va être un apprentissage pour moi, premièrement. Et deuxièmement, ça sera un dossier que je vais porter. Que je ne suis pas nécessairement experte ou familière ou la meilleure.
Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes en plus qui vivent Longueuil.
Exactement. Beaucoup. Et puis il y a un dossier particulier des artistes éphémères un peu. Il y a cette année, février, qui avait posté quelque chose où ils ont perdu leur espace pour pouvoir vivre un peu leur art et puis véhiculer leur art et faire briller Longueuil par leur art. Ils ont été sortis un peu de ces espaces. Ça m'a beaucoup touchée. Ce sont des choses pareilles qu'il faut véhiculer. Il faut faire vivre notre art et puis faire briller notre art. Et notre culture, en fait, longueuilloise, en fait, de Longueuil. Oui. Et puis l'étaler déjà dans Longueuil. Parce que déjà, au sein de la ville, ce n'est pas nécessairement bien établi et bien départagé à travers les arrondissements.
Oui, parce qu'il n'y a même plus de théâtre dans le vieux Longueuil.
Exactement, exactement. Puis il n'y a pas d'événements culturels qui rejoignent tous les arrondissements et tous les peuples, en fait, qui vivent dans ces arrondissements et puis cette ville, en fait.
Une mosaïque qui devrait être représentée.
Une belle mosaïque. Oui, c'est une très belle mosaïque culturelle qui ne se démontre pas encore dans la culture, alors que c'est très important. Ça crée cette sentiment d'appartenance. Ça crée aussi cette vie communautaire où les gens se connaissent, apprennent à se connaître par la culture. C'est un bon véhicule, en fait, pour vivre, pour avoir cet esprit communautaire, en fait, dans nos villes.
Alors, on va sans doute voir peut-être émerger des théâtres dans le vieux Longueuil et puis plusieurs festivals.
Beaucoup plus.
Oui.
Ah oui, vraiment.
Alors, félicitations encore une
merci
fois.
Beaucoup,
merci beaucoup.
Merci beaucoup à l'instant.
Merci à Fine Loi-Lalique.
Ah, vous le dites si bien. Merci de m'avoir
reçu. J'ai pris
reçu.
Du temps parce que je ne voulais pas escamoter votre nom.
Vous pouvez m'appeler Affine. Hein. Tout le monde m'appelle Affine, même les citoyens.
Merci Affine.
Merci beaucoup.